deux athlétiques jeunes garçons de 7 ans commencent à prendre des leçons de natation. L'un apprend à nager parce qu'il a vu les Jeux Olympiques à la TV et désire plus que tout au monde gagner la médaille d'or lorsqu'il sera grand. Il se voit déjà sur le podium, il décore sa chambre de posters des Jeux Olympiques et il écoute l'hymne national de son pays tous les jours. L'autre gamin, lui, a commencé les leçons de natation pour faire plaisir à son père qui a toujours été fan de natation. Lequel des deux, croyez-vous, aura le plus de chances de participer aux Jeux Olympiques ? Celui qui nage pour accomplir son rêve. Deux jeunes hommes de 20 ans ont l'objectif d'économiser 10 000 euros. C'est un exemple, hein, c'est une histoire, c'est pas une histoire vraie. Hein. L'un le fait parce qu'il veut acheter une vieille voiture de sport dont il rêve depuis qu'il a 16 ans et de plus, cela lui permettra de gagner en autonomie. L'autre jeune économise parce qu'il pense qu'il devrait le faire. Lequel des deux arrivera à économiser la somme en premier en réduisant ses dépenses, en mangeant moins, en sortant moins et en évitant d'acheter de nouveaux vêtements toutes les semaines ? Ben, celui qui économise pour accomplir son rêve. Alors, dans le livre de la Genèse, une histoire nous transmet la même vérité. Un verset. Ainsi Jacob, donc l'un des patriarches, servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Le texte nous dit que Jacob tomba amoureux de Rachel si profondément qu'il fut d'accord de travailler 7 ans à l'œil pour payer sa dot à son père. Mais cela ne lui sembla pas long du tout car il se consumait d'amour pour elle. Ça fait rêver, hein ? Qui est capable de considérer 7 ans de sa vie comme il ne s'agissait que de quelques jours ? Celui qui travaille pour accomplir son rêve. Il n'y a en fait pas de plus grande puissance dans ce monde que le désir qui nous anime lorsque nous nous disons « Il faut que j'arrive à ça, il faut que j'aie ça ». Lorsque Jésus parle de la vie avec Dieu, je pense qu'on n'est plus trop conscient de cette dimension. Eh bien, chaque fois qu'il parle de la vie avec Dieu, il le fait au travers d'histoires mettant en scène ce fameux désir, ce fameux « il faut que je l'aie ». Il a par exemple parlé d'un homme qui découvre un trésor dans son champ, ou dans un champ plutôt, et qui joyeusement va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ en question parce qu'il sait que le trésor s'y trouve. Parce qu'il faut qu'il ait ce trésor. Ou encore Jésus a parlé d'un marchand qui trouve une perle dont il a rêvé et qui vend toutes les autres pour se payer celle-là. Alors parfois en écoutant Jésus, des hommes ont vu ce fameux désir s'éveiller en eux. Ils ont vu Jésus vivre sa vie. Ils ont été attirés à lui par la paix qu'il dégageait, par son courage, par son amour, par sa sagesse. Et tôt ou tard, cette pensée leur est venue, « Je dois avoir ce qu'il a. Je veux être comme lui. » Alors peut-être avez-vous déjà cette passion. Et si c'est le cas, bouchez-vous les oreilles ou allez faire un tour ou faites dodo. Ce que je vais dire ne vous concerne pas. Mais il me semble quand même que très souvent, trop souvent, on nous dit que nous devrions désirer Dieu au-dessus de toute chose sans nous dire comment faire. C'est un très beau chant qu'on vient de chanter, hein, c'est vrai. Hein, ou comme, c'est en fait tiré du psaume 73, si je m'abuse. « Je n'ai que toi au ciel, Seigneur, et je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. » Je ne suis pas certain que nous désirions que Dieu sur la terre. Mais ce n'est pas un problème, et on va voir pourquoi. Nous avons tous déjà bien compris, je suppose, que nous ne pouvons pas faire apparaître ce désir de Dieu sur commande. Donc, si votre facteur de désir spirituel a tendance à louvoyer, à chanceler, ben la suite, je pense, va vous concerner. Grandir spirituellement nécessite que notre vie avec Dieu passe de la catégorie devoir à la catégorie vouloir. Le plus basique système d'évaluation que nous possédions, parce que nous en avons un, on n'en prend pas conscience, mais on en a un, pour estimer toutes les expériences et les événements que nous vivons dans quelque domaine que ce soit, est ce que le psychologue Jonathan Haidt appelle le j'aime bien au maître. Il y a le thermomètre, il y a le baromètre, maintenant il y a le j'aime bien au maître. Alors comment ça marche? Commençons par le commencement. Votre j'aime bien au maître s'est mis en route le jour de votre naissance. Ça fait partie de l'appareillage. Les récepteurs de goût, par exemple, sont, nous le savons, très développés chez les bébés, raison pour laquelle les bébés mettent tout en bouche. Si vous avez 16 ou 17 ou 20 ou 30 ou 50 ans et vous continuez à mettre tout en bouche, il faut commencer à consulter, hein, bien entendu. Donc ça signifie pratiquement que pour les bébés, le j'aime bien au maître impliquera ce qu'ils se mettront dans leur bouche. Ce qui pourrait se résumer en langage de bébé, comme si j'aime bien, il me le faut, ou je n'aime pas et je le retire de ma bouche. Alors que votre croissance continue, votre j'aime bien au maître enregistre tout sans que vous ayez y pensé. Chaque son que vous entendez, chaque conversation à laquelle vous prenez part, la moindre bouchée que vous mangez, sont enregistrés positivement ou négativement sur cette échelle. J'aime ou je n'aime pas. Et parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour tout, les personnes sont également enregistrées par rapport à ce critère. Il faut souvent une simple rencontre, une brève conversation avec quelqu'un pour que vous le placiez sur une échelle de « j'aime pas du tout ce gars ou cette personne » et « je l'aime bien » ou « je l'aime beaucoup ». Donc certaines personnes vont être enregistrées négativement sur cette échelle d'appréciation qui est la vôtre. Ce dont nous devons prendre conscience, c'est que cela ne s'arrête jamais et que cela concerne tout et tout le monde en permanence. C'est pourquoi il est une pensée, une question à laquelle vous allez tôt ou tard devoir faire face en tant que chrétien le plus honnêtement possible. Et je sais que c'est une question difficile et peut-être n'avez-vous jamais osé vous la poser. Eh bien, il faut commencer. Et cette question est toute simple. Est-ce que vous aimez, je ne vais même pas dire est-ce que vous aimez Dieu, est-ce que vous aimez bien Dieu, où le placez-vous sur votre échelle? Mais vraiment, hein, honnêtement, hein. Pas dans le style « je dois l'aimer donc je le mets là », non, non. Non, ça c'est « je dois l'aimer ». Mais où placez-vous véritablement votre rapport à Dieu? Parce que je pense qu'à un moment, il faut être pragmatique. Il faut devenir lucide. Si je n'apprécie pas plus que ça être avec Dieu, je ne passerai tout simplement pas beaucoup de temps avec lui. Parce qu'on ne fréquente par choix, par désir, que les gens que l'on aime bien. C'est important d'être honnête à ce propos parce que si vous, c'est pas un jugement, hein, vous avez bien compris, hein, parce que si vous n'aimez pas Dieu, ou pas beaucoup, si vous ne pouvez pas honnêtement dire je l'aime bien, vous comprenez encore une fois que je ne dis pas je l'aime tout court, hein, vous comprenez pourquoi, hein. Ce serait peut-être un peu trop, comment dirais-je, excessif. Donc si vous ne pouvez pas vous dire honnêtement « je l'aime bien », il est totalement inutile d'essayer de le tromper en faisant semblant déjà, parce que lui sait. Et depuis que l'Église existe, et ça il faut en prendre conscience, on a beaucoup parlé de discipline spirituelle, etc. Bien, depuis que l'Église existe, nous les chrétiens avons inventé un nombre incalculable d'astuces pour ne pas devoir faire face à cette terrible question « est-ce que j'aime bien Dieu ?» Certains ont fui la question en chantant des cantiques, par exemple, en particulier le dimanche matin, mais des cantiques écrits par d'autres, où ces autres expriment leur amour pour Dieu. Et on se cache derrière ces cantiques, « Oh, je t'aime Seigneur !» pour camoufler le fait que nous, on ne sait pas trop, en fait, où nous en sommes dans cette relation de désir et d'amour. D'autres se cachent en ne ratant aucune rencontre d'église, ou en aidant leur prochain, mais ils choisissent leur prochain, ils choisissent quand ils les aident et comment ils les aident aussi. Donc ce n'est pas vraiment Dieu qui décide non plus. Et parfois, on évite cette même question en mettant en avant tous les problèmes personnels que l'on peut avoir. « Oh, j'ai trop de soucis pour pouvoir aimer Dieu ou pour passer du temps à me prendre la tête avec ce genre de questions. » Alors, je vais être clair, hein, l'objectif n'est pas ici de vous faire vous sentir coupable pour ce que vous l'êtes déjà, de ce que vous devriez désirer Dieu davantage. Pour la simple et bonne raison que le verbe « devoir » ne possède pas la puissance nécessaire pour vous amener à aimer Dieu. Devoir est une sorte de moteur auxiliaire ou de groupe de secours. Alors, il est nécessaire d'en avoir un parce que parfois, je vais devoir faire les choses parce que je dois les faire. Mais, par exemple, si je cours un marathon et que j'en suis au kilomètre 23 de ce marathon, donc il m'en reste encore 19 à faire, et que je suis au bout de ma vie, comme dirait quelqu'un que je connais, ça ne va pas m'aider beaucoup de dire que je devrais finir la course, parce que rien que sur cet élan-là, je ne vais pas y arriver. Ce qui me permettra de terminer la course, c'est de me dire « je veux terminer ». Sur la fin d'un marathon, c'est vouloir qui finira par épuiser petit à petit la notion de devoir. Je vais finir par vouloir terminer cette satanée course. C'est la même chose dans la vie du disciple. Celle-ci ne consiste pas à vivre ma vie en faisant ce que je devrais faire plutôt que de faire ce que je veux faire. Parce que cette vie-là, je dois le faire, donc je le fais. Ce n'est pas une vie de disciple, mes amis, c'est une vie de fonctionnaire. Alors, essayez de faire rimer avec abondance ce que dit Jésus, cette notion de vie abondante avec fonctionnaire. Donc, devenir disciple, c'est donc apprendre à vouloir faire ce que je devrais faire. Ce que Jésus veut nous faire comprendre au travers des paraboles, parlant du royaume de Dieu et du désir qu'il suscite, comme dans celle du trésor enfoui dont je parlais tout à l'heure, c'est que lorsque les gens viennent à comprendre à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu les aime, ils en arrivent à le vouloir lui, comme Asaph, hein, l'auteur du psaume 73, « Je n'ai rien d'autre au ciel et je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. » Ils ne l'aiment pas seulement, ils le désirent aussi. On peut présenter les choses de la manière suivante. Lorsqu'on nous dit que nous devrions faire telle ou telle chose, nous pouvons comprendre ce « devrait » de deux façons différentes. Soit c'est un « devrait » d'obligation, soit c'en est un d'opportunité. C'est une chance qu'on m'offre. Le premier, le « devrait » d'obligation, est lié au devoir. Donc tu devrais payer tes impôts. Tu devrais garder ton chien en laisse. Le second, celui d'opportunité, est lié à la vie. Tu devrais faire une pause, tu devrais voir du monde, tu devrais goûter à ce gâteau ou à ce cake. On est directement dans un autre monde. La plupart du temps, les devrais du message de Jésus dans l'Évangile sont des devrais d'opportunité. Ce ne sont jamais des devrais d'obligation, parce que ça n'attire personne, tout simplement. Le devoir n'a jamais attirer personne, à part la reine d'Angleterre. Mais ça n'arrivera plus jamais. Merci Seigneur pour la reine d'Angleterre. Donc lorsque nous prenons conscience de ça, nous nous sentons évidemment coupables parce que notre désir de Dieu n'est pas plus profond. Mais il faut passer par là. Mais nous ne pouvons pas nous forcer à désirer Dieu davantage en nous disant que nous devrions le désirer plus, que nous devrions l'aimer plus. Ça ne marche pas. Alors Dieu est patient et plein de grâce, ça c'est la bonne nouvelle. Et il désire tant que nous le désirions lui, qu'il accepte justement que nous passions par ce stade de prise de conscience et que nous soyons honnêtes avec lui. Il y a d'immenses hommes de Dieu des premiers siècles, par exemple, de l'histoire chrétienne, on a leurs prières, qui ont écrit, des gens qui ont une réflexion théologique, qui ont une connaissance incroyable, et qui témoignent à travers leurs prières le fait qu'ils n'ont pas de désir pour Dieu, que leur cœur ressemble à un caillou, que quand ils demandent pardon à Dieu, ils ont l'impression de réciter le bottin de téléphone. Donc ce genre de dynamique est en place dans la vie de tout le monde. Nous devons tous passer par cette prise de conscience. Et c'est parce que ça fonctionne comme ça, et que nous fonctionnons comme ça, qu'il y a des petits versets dans la Bible qui peuvent nous aiguiller sur la bonne direction, ou dans la bonne direction. Psaume 34, verset 9, par exemple. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Donc goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est une invitation que Dieu donne à l'homme de dire « Goûte-moi, fais l'expérience. » Et tu verras combien je suis bon et combien je t'aime. C'est la même dynamique qui est à l'œuvre dans la foi. Le plus grave dans la vie chrétienne, c'est pour ça que Dieu dit qu'on ne peut pas lui plaire si la foi n'est pas véritablement ardente, c'est que tant que vous ne faites pas des pas de foi dans quelque domaine que ce soit, vous n'expérimenterez pas que Dieu est là et qu'il est bon envers vous et qu'il vous aime. Repensez à cette petite histoire de cette veuve, de cette pauvre veuve du pays de Sidon, qui a un fils, elle a déjà du mal à avoir à manger pour elle et son fils, et puis un prophète juif qui débarque chez elle en disant « Dieu m'a dit de rester chez toi ». Elle dit « Ça va, je vais te faire à manger, puis je vais mourir, hein, parce que moi, je n'ai pas assez pour faire subsister 3 personnes ». Et le prophète lui dit « Ça, ce n'est pas ton problème, contente-toi de nous faire à manger ». C'est l'histoire de la bouteille d'huile, le soir, elle était vide. Et le matin, tous les matins, quand la veuve se réveillait, elle trouvait dans sa cuisine, si on en avait une bouteille d'huile remplie. La bouteille d'huile s'était remplie, à nouveau. On ne sait pas comment ça marche, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc le test de la foi, c'est dit, je te fais confiance, j'y vais, et ça fonctionne. Et parce que ça fonctionne, parce qu'on goûte combien le Seigneur est bon, il se passait un truc. C'est qu'on a de plus en plus confiance en lui, et qu'on expérimente de plus en plus sa personne. N'aurait pas, ça ne vous aura pas échappé que goûter est un verbe lié à l'expérimentation. C'est comme si un chef 3 étoiles vous invitait à sa table. Alors, vous n'avez pas à vous engager à tout manger, prenez une bouchée et puis goûtez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez laisser le reste, mais croyez-moi, le chef, lui, il est convaincu que vous allez tout aimer. Il y a une question par rapport à ce verset de ce psaume que moi je me suis posé. Ai-je déjà goûté à la bonté de Dieu ? Ou pas encore ? C'est peut-être pour ça qu'on est tellement fatigué spirituellement aussi. Hein ? Parce que si on essaie de marcher sur nos forces et qu'on ne goûte à aucune des promesses de Dieu, la route va être longue. Hein ? Peut-être ne nous a-t-on jamais expliqué comment on peut faire pour goûter que Dieu est bon. On ne nous l'a jamais expliqué, donc on ne sait pas comment faire. Ce que nous avons tous compris, par contre, ce que la vie nous a appris, c'est que si nous ne goûtons pas, nous allons être quand même relativement malheureux. C'est valable au niveau culinaire comme c'est valable au niveau spirituel. Alors, si vous faites partie de ceux qui aiment tout en termes de cuisine et sont énervés par ceux qui n'aiment rien ou ne veulent rien goûter, transposez-vous sur le plan spirituel et demandez-vous si, sur ce plan-là, vous ne faites pas partie des pénibles qui n'aiment rien et qui ne veulent jamais rien goûter. Alors, comment prend-on ce chemin ? Comment fait-on pour goûter combien le Seigneur est bon ? Eh bien, pour ce faire, ça va peut-être vous rassurer, du moins je l'espère, il va falloir nous utiliser nos désirs authentiques. Parce que je ne sais pas si vous savez, Dieu vous a créé avec des désirs et il désire que vous le désiriez par-dessus toute autre chose. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu nous aurait créé avec tant de désirs naturels en nous? Si c'était pour exiger de nous qu'en fait nous ne désirions rien d'autre que lui. Il y a une marque de fabrique à poser à vos désirs. Certaines activités, certaines sensations, certaines personnes et certaines pensées qui éveillent en vous une réponse du type justement « il faut que j'obtienne ça ». Et ce que moi je désirerais, ça ne va pas être la même chose que ce que Geoffrey va désirer ou Catherine ou peu importe. L'écrivain Lewis Midis l'exprime comme suit. Dieu est si grand qu'il n'a pas besoin d'être notre seule joie. Il existe une joie terrestre, une joie extérieure comme une joie intérieure. la joie de danser comme celle de s'agenouiller, la joie de jouer comme la joie de prier. Lorsque quelqu'un profite pleinement de ce que Dieu a créé, le cœur de Père de notre Seigneur s'en réjouit, parce que c'est pour ça qu'il a créé. Pourtant, je pense que de nombreuses personnes se disent encore, si je veux être spirituel, je dois éviter le péché, ça c'est sûr. Et le meilleur moyen de l'éviter, c'est de supprimer le désir. Si je n'ai plus de désir sexuel, de désir pour l'argent, pour la nourriture, pour le succès, je serai vraiment spirituel parce que je ne pécherai plus. Je ne suis pas sûr que ça marche, vraiment pas. Mais le pire, c'est que dans ce cas, si vous mettez ça en route, vous tentez de vivre ça, ça s'appelle des ascètes, hein, vous allez cesser d'être humain. Et je ne pense pas véritablement que ce soit la pensée de Dieu. Une dalle de béton n'a pas à se soucier des mauvaises herbes, forcément. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que la dalle de béton ne deviendra jamais un jardin non plus. Être un jardin, ça comporte des risques. C'est les mauvaises herbes, mais c'est un risque qu'il faut prendre. Donc il ne faut pas faire tuer en nous tout désir, refuser en nous tout désir sous prétexte que mon désir risque parfois d'être mal orienté. Il faut apprendre à réorienter son désir. Parce que lorsqu'il n'est pas corrompu par le péché, le désir est quelque chose de fabuleux. Fabuleux parce qu'il fait partie du plan de Dieu. Dieu est un Dieu créateur de désir, de satisfaction. Il a créé les oiseaux, par exemple, avec l'impulsion de voler. Je ne suis pas un oiseau. Je ne suis pas ornithologue, mais je ne pense pas que beaucoup de parents oiseaux disent à leurs oisillons « Dégage du nid, maintenant c'est bon, on a le compte. » À un moment, il y a une incitation à voler parce que le fait de voler est inscrit profondément dans les gènes de l'oiseau. À un moment, c'est évident, ça se fait jour. Les dauphins nagent. Vous savez pourquoi ils nagent, les dauphins ? Parce que Dieu a fait d'eux des animaux marins. Waouh, quelle révélation, hein ! Je sais bien, les évolutionnistes diraient encore aujourd'hui qu'un dauphin, en regardant un oiseau dans un, pourrait dire oh, « Moi, j'ai envie qu'il me pousse des ailes parce que j'ai envie de faire l'expérience de voler et que du coup, les petites ailes vont pousser. » Moi, j'ai un doute avec ça, vraiment. Tout ça est inscrit en eux. Alors, quittons les animaux et revenons à nous. Un exemple biblique. Comment Adam, notre ancêtre, le premier homme, a-t-il su qu'il était supposé devenir une seule chair avec Ève. Rappelez-vous, hein, Genèse 2:24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, je rappelle que devenir une seule chair est un euphémisme pour parler des relations sexuelles. D'accord ? Pensez-vous vraiment que Dieu ait laissé une liste de choses à faire à Adam du style « Adam, d'abord, tu donnes un nom aux animaux. Ok ? Après, tu sors les poubelles. Et finalement, avant que j'oublie, n'oublie pas de faire une seule chair avec Ève. » Vous pensez vraiment que ça s'est passé comme ça ? Bon, il faut que je fasse une seule chair avec Ève, quoi. Je ne pense pas que ce se soit passé comme ça. Je pense que le désir faisait partie de l'équation. Personnellement, je crois qu'Adam a regardé Ève et qu'il a découvert que le désir faisait partie de lui. Alors, nous sommes ici avant la chute. Autrement dit, d'où venait ce désir ? Ce désir venait de Dieu. Alors si vous avez encore un doute, pensez à toutes les personnes souffrant de dépression et dont le symptôme le plus flagrant est justement l'absence de désir, l'absence d'envie. Vivre sans désir, c'est vivre sans but. Et mes amis, ça s'appelle la mort. Si vous ne désirez rien ni personne, vous êtes mort. Votre vie est morte. Je pense d'ailleurs que c'est à ça que Jésus fait référence quand il dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renonce à tout ce qui n'est pas moi et tu auras du désir pour ce que j'aime, pour ce que moi je désire, pour ce que j'ai mis en toi comme désir. » Nous devons dire non à tout désir qui nous tiendra éloigné de la vie de l'esprit, ce qui signifie en clair que nous devons toujours être prêts à sacrifier un désir moindre afin de vivre une vie plus profonde. Mais à l'opposé, rien, absolument rien, ne rend un être humain plus vulnérable à la tentation que de vivre une vie ennuyeuse et sans joie. Mais vraiment, hein, Vous voulez être sûr de tomber dans des trous sur la route ? Passez votre vie à ne plus avoir d'envie. Alors vous levez le matin en disant « Ouais, je me lève, je vais travailler, je rentre, je vais dormir. » Vivez ça un certain laps de temps et je vous garantis que vous serez en danger. Vous n'êtes peut-être pas conscient, mais tôt ou tard, ça finira mal. Croyez-moi. Nous devons donc prendre conscience que chaque fois que nous éprouvons un désir authentique, un désir produit par Dieu, nous entrons dans son plan et nous faisons l'expérience de combien Dieu est bon. Il faut bien entendu apprendre, faire l'expérience de lier ce que nous vivons de positif avec le fait que c'est Dieu qui nous le donne. Quand Geoffrey promène en montagne, par exemple, n'est-ce pas Geoffrey ? Quand il est, parce qu'il monte très haut Geoffrey, hein, en essayant que les autres suivent, et quand il arrive sur un plateau, le cadeau est toujours au-dessus, à 3000, 3500, 4000. Et là, vous avez un panorama extraordinaire. Et là, Geoffrey, du fond de son petit cœur, hein, je suis là quand même, même si je ne suis pas là, du fond de son petit cœur, il y a quelque chose qui vient. Que tu es grand, quoi, Seigneur, mais que tu es grand. Si ce n'est pas le cas, tu n'es plus ancien. Ça, c'est le minimum syndical. Non, mais c'est vrai. Alors que Doud montrait à ces mêmes altitudes avec Geoffrey, déjà il râlerait sur Geoffrey parce qu'il serait crevé et mort, ils auraient mal partout, et ils verront rien. Ou alors si moi je monte avec Geoffrey, ce jour-là, une fois par an, il y aurait des nuages qui couvriraient les montagnes, on ne verrait rien. Voilà, ça c'est mon expérience à moi. Mais il ne pleut jamais ici, moi quand j'arrive, c'est la drache, quoi. Nous apprenons comment Dieu nous a câblés et ce qu'il veut que nous fassions. Et le résultat est que nous nous surprenons à aimer ce grand Dieu toujours davantage. Vous savez, les montagnes, je parle des montagnes, les montagnes, Dieu ne les a pas créées pour lui, mes amis. Il n'y a pas besoin des montagnes pour être heureux, Dieu. Mais il sait que Geoffrey en a besoin. Tu devrais avoir honte. C'est dit, bon, j'ai créé montagne parce que Geoffrey sans montagne, son t-shirt le dit. J'ai pas besoin de thérapie, j'ai besoin d'aller en montagne. Voilà. Donc c'est de cette façon que nous goûtons et voyons combien le Seigneur est bon, et notre désir peut alors devenir partie prenante de la vie de l'Esprit-Saint. Bon, on va passer à la pratique. Les désirs se présentent à nous, en règle générale, sous quatre formes différentes. Alors j'aimerais bien entendu que, chemin faisant, vous preniez le temps de vous évaluer à ce niveau-là. Parce que nous sommes tous différents. Donc il va falloir être honnête, encore une fois, parce qu'en surface, les types de désirs que je vais évoquer pourront ne pas sembler très spirituels, en surface seulement. Peut-être même n'aurez-vous jamais songé à eux comme ayant quoi que ce soit à voir avec Dieu. Et pourtant, si vous leur laissez une chance, ils deviendront partie prenante de votre vie selon l'Esprit-Saint. En fait, chacun d'entre eux a été conçu par Dieu pour devenir un fondement de votre vie. Premièrement, ça, celui-là, à mon avis, il vient à l'esprit de personne, aucun chrétien. Les désirs matériels. Oh mon Dieu, les désirs matériels, mais quelle horreur! Le Seigneur veut que nous soyons dans le dépouillement. Accessoirement, aucun de vous ne l'est. Dans le dépouillement, c'est comique, ça. Nous avons tous des désirs matériels. Il y en a qui lève le bras, mais moi, j'en ai aucun. Je me ferais heureux de lui faire la liste de tous ses désirs matériels. Donc des désirs, soyons clairs, des désirs attachés à l'argent, aux vêtements, les filles, c'est pour vous. Ben oui, quand même. Aux voitures, messieurs, c'est pour vous. Aux maisons, ça c'est pour tout le monde. Je ne me reconnais dans aucun de ces désirs, à titre personnel. Alors, si vous me dites que ça n'a rien de spirituel, alors que notre vie doit l'être, toute notre vie. Dites-moi pourquoi vous avez tous, pour la plupart, acheté une maison, un appartement, acheté une voiture, etc. Et acheté des fringues. Bon, acheter des fringues un minimum quand même, parce que si nous sommes tout nus, on va à un autre type de problème, évidemment. Alors, si vous avez fait tout ça, et vous pensez que ce n'est pas bien, pourquoi l'avez-vous fait? En sachant que vous ne serez de toute façon plus à ce moment-là spirituel du tout. Et si c'est le cas, vous dites, oh mon Dieu, c'est vrai, je viens de prendre conscience, j'aurais jamais dû acheter tout ça, il va falloir vous dépêcher de le vendre surtout. Même si nous parvenions à nous débarrasser de tout péché, nous aurions encore des désirs envers les choses matérielles. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que c'est Dieu qui les a créées. Pourquoi croyez-vous qu'il a créé le monde et la création autour de vous sans créer les désirs ? Il a créé ça pour vous, pour moi, pour nous. Tout, absolument tout, dans l'absolu, fait partie de la création de Dieu. Et pour cette raison, tout ça est très bon. Et nous devons désirer ce qui est très bon. Aimez-vous l'argent ? Ne me répondez pas, je sais. Alors, je sais que c'est provocateur comme question. Et pourtant, dans le chapitre 16 du livre des Actes, tout le monde situe les Actes ?
Oui.
C'est comme le livre des Juges. Ben dans ce livre, on nous parle un moment de Lydie, qui était une femme d'affaires qui travaillait dans le textile. Elle fut la première convertie d'Europe, puisqu'elle habitait la ville de Philippe en Grèce. Okay ? Elle avait de toute évidence du flair dans les affaires et un goût suffisant, un goût pour les belles choses, ce qui plaisait à l'époque en matière d'étoffes. Elle achetait des étoffes, elle les teintait. C'est joli ça, teinter. Elle teintait les étoffes. Imaginez un seul instant la volonté, la détermination, le désir qui ont dû animer cette femme pour qu'elle réussisse dans les affaires en pleine antiquité. Une femme, homme d'affaires. C'est fou, hein, quand même. Je sais bien qu'on lit ce texte, ben, on ne pense pas à ça, mais pourtant, ça en fait partie. Elle était en tout cas assez bonne dans ce qu'elle faisait pour posséder sa propre maison. On ne parle pas du mari de Lydie. Hein. Elle possède sa propre maison, qui est le fruit de son travail. Et celle-ci était assez grande pour devenir partie intégrante de son ministère, puisqu'elle se convertit au travers de la prédication de l'évangile donné par Paul. Et la maison de Lydie va devenir le lieu de rassemblement de la première église d'Europe. Je rebobine à l'envers. Elle n'a pas de désir de réussite. Elle ne réussit pas dans les affaires. Elle n'a pas une thune. Elle n'est pas à l'endroit où Paul peut la rencontrer. Elle ne se convertit pas. Il n'y a pas d'église en Europe. Tout ça, c'est parti de quoi ? Du désir d'une femme qui était douée pour les affaires, de faire des affaires. Après sa conversion, des choses se réorientent différemment, évidemment. Alors repensez à toutes les églises construites au cours des siècles. Notre-Dame de Paris. Ah oui, c'est juste, elle a cramé. L'abbaye de Westminster, la chapelle Sixtine, la toute première en Europe, fut la maison de cette femme d'affaires appelée Lydie. C'est incroyable quand même. Non ? Alors peut-être que vous avez le même flair pour l'argent. Depuis le temps, ça se saurait, mais enfin bon. Donc vous y prenez du plaisir. Vous n'osez pas le dire à qui que ce soit dans l'Église, que vous avez du flair pour tout ce qui touche aux financiers. Parce que déjà, ça vous permet de vous entourer de beauté, de couleurs. Et en soi, ce n'est pas un problème. Hein. Vous avez les moyens de vous payer une grande peinture. Dieu a créé la beauté. Il aime la beauté. Maintenant, si ces désirs vous empêchent d'être généreux, si c'est dans les affaires, vous avez des thunes, si ça vous empêche d'être généreux, ça vous pousse parfois même à vous endetter, à prendre des risques, ou ça crée en vous un sentiment chronique d'insatisfaction, là, il est forcément peut-être temps de réorienter vos désirs, de dire non à certains désirs. Ça s'appelle la vie chrétienne, ça, c'est tout. Hein. Mais si c'est une bonne chose de mettre de la beauté dans votre environnement, que ça parle à votre âme, il faut embrasser pleinement cette joie parce que cette joie vous vient de Dieu. Comme je disais, Dieu a créé les montagnes pour Geoffrey, entre autres. Mais c'est vrai, moi je crois ça. Je suis toujours en train de me demander ce qu'il a créé pour moi. Mais... Donc c'est un des moments où vous êtes invité à faire l'expérience de la présence de Dieu. Deuxième type de désir. Les désirs d'accomplissement. Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de personnes dans l'histoire qui aient été plus motivées par l'accomplissement que l'apôtre Paul. Il était en mouvement perpétuellement, il enseignait en permanence, il construisait l'Église, il motivait les chrétiens. Il a décrit sa vie en utilisant des métaphores telles que « j'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course ». Toute chose qui dit quand même que c'est une vie incroyable, merveilleuse quelque part, mais que ça avait un prix. Dieu n'a pas retiré à Paul son désir d'accomplir de grandes choses. Au contraire, il l'a exploité afin qu'il puisse servir les autres. Je vais dire autrement, si Paul n'avait pas été converti par le Seigneur, il aurait été un des plus grands enseignants du pharisianisme de l'époque. Il se serait accompli. Il aurait fait de grandes choses dans le judaïsme de son temps. Ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. Mais quelle chance qu'il avait ce moteur, que tous ses désirs de grandeur étaient en lui. Vous savez, l'Église est toujours la taille de votre cœur et de votre désir. Nous avons tous des désirs d'accomplissement, normalement. Parce que Dieu nous a créés pour assumer la domination sur le monde, la gérance et la gestion de ce monde. C'est pour cette raison que l'Ecclésiaste, un autre livre que nous lisons souvent, nous dit ceci, « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts là où tu vas. » Le jour où vous serez mort, au niveau des îles, ce sera plat. Que vous alliez dans le séjour des morts, si vous n'êtes pas chrétien, ou auprès du Seigneur, vous ne réaliserez, pour cette période-là de temps, plus rien du tout. Plusieurs psaumes parlent de ça aussi. David s'adresse à Dieu en disant, « Mais si je meurs, je ne pourrai plus te louer parce que personne ne te loue dans le séjour des morts. » D'accord ? C'est maintenant que ça joue, votre accomplissement, ce que Dieu vous demande d'accomplir, à partir de ce qu'il a fait de vous. Troisième type de désir, les désirs relationnels. Il y a une très belle histoire, ou un très beau récit plutôt, dans l'Ancien Testament qui nous parle de l'amitié entre David et Jonathan. Alors, ce n'est pas le duo d'apprentis chanteurs des années 80. Qu'est-ce que tu fais pour les... Non. C'est déjà une honte qu'ils ont osé prendre ce nom-là, quoi. Vous me direz, si c'est leur prénom, ils ne savaient pas en prendre d'autres. Je recontextualise quand même. Alors que Jonathan était l'héritier du trône d'Israël, son papa c'est Saül, le premier roi d'Israël, il a volontairement abandonné celui-ci parce qu'il savait que David, son ami, était le choix de Dieu. C'était lui le véritable roi d'Israël. Jonathan voulait être ami de David plus qu'il ne voulait être roi. Donc son désir d'accomplissement passait en second plan par rapport à son désir relationnel. Croyez-moi, on peut aussi lire cette histoire, ce récit avec beaucoup de détachement, mais c'est relativement rare comme attitude dans les cercles de pouvoir. Quand il y a des réunions à haut niveau politique dans n'importe quel pays, pour décider qui va y aller comme Premier ministre, c'est ça qui fait traîner, mes amis. Ce n'est pas le projet, ce n'est pas le budget, ce qui fait traîner, c'est qui va avoir la première place. C'est ça qui fait traîner. On ne veut pas laisser sa place à quelqu'un d'autre. Pourtant, Jonathan a dit, « David, je t'aime, tu es mon meilleur ami, tu es le roi choisi par Dieu, amen. » N'empêchera pas Jonathan d'être fidèle à son père et de mourir au combat aux côtés de son père. Même s'il savait que ce père avait été abandonné par Dieu. Mais c'est fort, ça. Il était abandonné par Dieu, mais lui n'a pas abandonné son père. Il était lucide par rapport à son père, mais il ne l'a jamais abandonné. Donc ça fait des milliers d'années, 3000 ans à la louche, que ce récit de l'amitié entre David et Jonathan a traversé l'histoire. Et lorsqu'on annoncera à David que Saül est mort, et que son ami est mort, relisez ça dans le livre des rois, David aura cette parole extraordinaire, « Jonathan, mon ami, tu m'aimais plus, d'un amour plus grand que celui dont on aime les femmes. » Une amitié, c'est un sentiment fort. Nous avons tous des désirs relationnels, mais nous n'y mettons pas assez d'investissement. Certains mettent beaucoup, certains beaucoup moins, et certains rien du tout. Alors parfois, souvent, ce qu'on entend, c'est « Oui, mais je n'ai pas trop le temps. » Ça prouve au moins une chose, c'est que les relations profondes ne tombent pas du ciel. Il faut investir. Jonathan a dû faire tomber un grand nombre de barrières pour devenir l'ami de David. Et il y a de fortes chances que si vous désirez devenir vraiment ami avec quelqu'un, vous deviez faire de même. Et là vient encore une question, je pense, et c'est important de vous la poser régulièrement, surtout en tant qu'Église, nous sommes le corps de Christ, nous sommes frères et sœurs. Ben, posez-vous la question, hein, au-delà de la réflexion théologique ou de savoir ce que, de connaissances bibliques que nous avons, avez-vous un ami ? Un véritable ami qui sait tout de vous et à qui vous dites tout. Là, je ne parle pas de connaissances, de copains, hein, je parle d'amis. Hein. Et si vous n'en avez pas, demandez-vous pour quelle raison ? À mon avis, c'est parce que vous n'investissez pas. Parce que si je ne connais pas le vrai vous, si vous ne me le montrez pas, c'est valable pour tout le monde, hein, je ne serai jamais votre ami. Aucun d'entre nous, après avoir acheté une maison, ne se contenterait de rester sur le trottoir et d'admirer la façade. Personne ne ferait ça. Pourtant, dans les relations, parfois, c'est ce que nous faisons. Si on achète une maison, c'est pour entrer, y vivre. Et dans les relations personnelles, c'est pareil. Sans cette qualité relationnelle, non seulement la vie est un leurre, mais oserais-je dire, l'Église aussi est un leurre. C'est comme les saloons dans les western spaghetti. Hein. Ce sont des décors de cinéma. Il y a la façade, vous poussez les deux portes battantes et derrière, il n'y a rien. Parce qu'on ne filme encore une fois que la façade. Si nous ne voulons pas de relations véritables et profondes, et ça m'est arrivé de discuter de ça avec des gens depuis que je suis dans le ministère, bien sûr. Hein. Ce n'est pas le premier objectif, mais ça doit découler de la vie de Dieu en nous. Pourquoi sommes-nous dans l'Église ? Qui cherchons-nous ? Ça peut être intéressant comme question. Pourquoi ? Je suis chrétien, ok, le Seigneur m'a converti, je fais partie d'une Église, mais quelque part, pourquoi est-ce que j'en fais partie ? Qu'est-ce que j'y recherche ? Alors nous savons que le terme Église vient du terme grec « ecclésia », appelé « hors de », en dehors du monde en fait. Et nous savons que les premiers appelés hors du monde furent les 12 disciples de Jésus. Mais c'est tout de même interpellant de remarquer que la méthode employée par Jésus pour faire de ces hommes ses disciples ait été la communauté de vie. Passer 3 ans de sa vie, 24 heures sur 24, 16 jours par semaine avec eux. Manger avec eux, parler avec eux, les enseigner, les écouter, dormir avec eux, etc. Des hommes qui partagent tout. Les bons moments comme les moins bons. Et je pense que ce n'est donc pas pour rien qu'avant d'être arrêté, Jésus le dit, je ne vous appelle plus mes disciples, vous êtes mes amis. Parce que vous savez tout de moi. Et je sais tout de vous. En fait, à qui confieriez-vous ce que vous avez de plus cher ? À qui d'autre qu'à ses amis intimes, Jésus aurait-il pu confier la proclamation de l'Évangile, ce qu'il avait lui de plus cher, à part à ses amis ? Alors, le plus triste reste, hein, bien entendu, que le seul qui se soit perdu l'ait été parce qu'il n'a pas voulu s'ouvrir et dévoiler son être profond au Christ, je parle de Judas bien sûr. Mais c'est une question que j'arrête pas de me poser chaque fois que je pense à Judas. Que se serait-il passé s'il avait pris le risque d'ouvrir son cœur à Jésus ? C'est pas. Donc cette capacité d'interagir pleinement avec les autres est un don de Dieu que nous mésestimons pour de très nombreuses raisons. Parce que le désir relationnel est un des plus naturels et des plus ancrés en nous. Et c'est celui... C'est incroyable, hein, et de plus en plus, alors qu'on n'arrête pas de dire que nous sommes dans une société de communication, c'est le plus important, et en fait on communique de moins en moins. C'est le désir que nous développons le moins. Mes amis, ce n'est pas ma première église, je peux vous garantir que les fausses relations sont le poison qui tue l'église depuis des générations. Ça va, tu vas bien ? Et on n'en a rien à cirer en fait, hein. Façade. J'étais pasteur dans d'autres églises, il y en a certains, je les ai accompagnés, j'étais leur pasteur pendant des années. Porte fermée. Mais c'est eux qui se privent, hein, comprenez. C'est un privilège, hein, quand je deviens l'ami de quelqu'un. C'est super, hein. Alors, désir suivant. Bouchez-vous les oreilles, hein, les chastes. Les désirs physiques. Parce que Dieu a aussi conçu notre corps, je vous le rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, nous éprouvons de l'appétit pour des choses qui se mangent, qui se boivent, qui se touchent et qui se voient. C'est ce qu'on appelle les désirs physiques. L'Ancien Testament est rempli de commandements au travers desquels Dieu dit à son peuple de festoyer, de faire la fête, de manger, de célébrer, de chanter, de danser, de crier et de faire de la musique. Il y a un texte dans le livre d'Esdras. Moi, je trouve ce texte extraordinaire. Donc, je passe les... contextualise. Une partie de juifs, certains juifs sont revenus de déportation à Babylone pour reconstruire le temple, la muraille, ça prend du temps, enfin peu importe, ça traîne, puis ils suscitent des prophètes pour les réveiller, et finalement, ben, le temple est reconstruit. Il est reconstruit, on retrouve la loi de Dieu. Esdras, le scribe, un matin réunit tout le peuple à Jérusalem, tous ceux qui sont là, et il lit la loi de Dieu, la loi de Moïse. Donc, c'est une longue lecture. Hein. Et le texte dit qu'à la fin de cette lecture, tous les juifs déchirent leurs vêtements, pleurent, demandent pardon de ce que leurs ancêtres eux-mêmes ont abandonné l'Éternel. Et ils pleurent et ils pleurent. Et Esdras dit, ça suffit. C'est bon, vous avez pleuré. Maintenant, on va se réjouir, on va faire la fête. Parce que Dieu est revenu parmi nous. C'est incroyable. Hein. Jamais dépassé 15 Guinness hein, pendant les fêtes. C'est quand même important. Hein. Non, mais il y a une limite à tout. Hein. Toutes ces choses que je viens d'énumérer, chanter, danser, crier, faire de la musique, toutes ces choses, nous les faisons avec notre corps. Essayez de mettre une guitare sur une chaise et la regarder en essayant qu'elle fasse un accord de sol. Il ne se passera rien. Vous aurez besoin de votre corps pour que cet accord sorte. Ces appétits, ces désirs et ces amusements peuvent donc devenir des moyens de nous rappeler combien le Seigneur est bon. Faites passer un repas. Un bon repas avec des amis. À un moment, pensez à Dieu. Ses amis sont là parce qu'il vous les a donnés. Même moi. Hein. Et quand nous vivons ça, nous apprenons alors à faire le lien entre le don que nous aimons déjà et celui qui le donne, Dieu lui-même. Notre problème, c'est que souvent nous prenons du plaisir, mais nous le déconnectons de Dieu lui-même, en fait. On passe un bon concert et on se dit... C'est un super concert, hein. Et on en parle, et c'est super. Et pas une seule seconde, on se dit, oui, mais c'est aussi Dieu qui a permis que ce moment soit de qualité. Ça dépend ce que vous allez, à quel concert vous allez, évidemment. Si Geoffrey, par exemple, il va se dire, c'est ma journée, mais si Geoffrey vous invite à un concert, petite précaution, qui vous file le CD avant, qu'au moins vous soyez averti, oui. Donc vous commencez avec ce que vous appréciez, cela vous amène à la source de tout don, à savoir Dieu lui-même. Et là vous goûtez et vous voyez combien le Seigneur est bon. Parce que Dieu se réjouit lorsque vous profitez de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que votre bouche fait de nouvelles expériences gustatives. J'ai déjà peut-être dit ça, mais je termine en donnant ce petit exemple-là. Certains d'entre vous connaissent ou ont entendu parler de Daniel Bourguet. Alors, à titre personnel, Daniel serait là, il ne serait pas content, mais... Pour moi, c'est le plus grand homme de Dieu que j'ai jamais croisé dans ma vie. Vraiment. Et je me rappelle une des premières retraites que nous avons fait à Chimay. Le soir, le souper du vendredi soir, c'était des chicons au gratin. Parce qu'on mange bien à Chimay, en règle générale. Et Daniel, étant un peu acide sur les bords, lui, il s'est pris, je crois, sa petite roulade, un petit peu de purée, il a mangé. Mais d'autres à table se sont... On a repassé les plats. « Eh bien, dans le regard de Daniel et sur son visage, j'ai vu deux choses. Le regard illuminé, un sourire qui faisait trois fois le tour de sa tête, et je sentais monter intérieurement sa prière. Merci Seigneur de ce que mes frères profitent comme ça de ce repas. Il se réjouissait. Lui avait mangé très peu, mais il se réjouissait de ce que, d'autres que lui profitaient pleinement de ce repas. Donc Dieu se réjouit lorsque vous profitez de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que votre bouche fait de nouvelles expériences gustatives. Le physique n'est pas séparé du spirituel. On les a trop souvent opposés. Essayez de prier dans une position inconfortable, vous n'y arriverez pas. Si votre corps est mal mis, si la chaise n'est pas bonne, si vous avez mal au genou, vous n'y arriverez pas, parce que votre corps fait partie de l'équation. Parce que c'est le même Esprit Saint qui a créé nos corps. Et lorsque nous ouvrons à l'Esprit de Dieu au travers de nos désirs physiques, nous commençons à aimer Dieu de plus en plus. Pas parce que nous le devrions ou parce que ça nous est commandé, mais tout simplement parce que nous apprenons à le connaître. Et nous ne pouvons plus nous empêcher de lui dire merci. Donc ce petit verset du psaume que nous avons lu, « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon », ça devrait être notre devise à tous en tant que chrétiens. Moi, je désire profondément goûter et voir, donc expérimenter, que mon Seigneur est bon envers moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Prenons un temps dans la prière, si vous le voulez bien.